Et bonjour à tous. On est vraiment content que vous soyez là ce matin. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent par Internet. Il y a des gens qui nous écoutent un peu partout. J'ai même reçu une lettre de Portland, Oregon, cette semaine, un courriel, quelqu'un d'autre en Afrique, quelque part. Donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, avec la technologie, c'est quand même... surprenant et incroyable tout ce qu'on peut faire. Alors, gloire à Dieu pour ça. Le ministère s'étend. Eh bien, on a commencé la semaine dernière une nouvelle série dans le livre de Jonas. C'est un petit livre, seulement 4 chapitres. Et on a vu déjà la semaine dernière que le livre commence assez abruptement. Il n'y a pas vraiment d'introduction. C'est tout de suite, on rentre dans l'histoire de Jonas, alors qu'il va tout de suite, on le voit désobéir à Dieu, alors que c'est un homme de Dieu. C'est un prophète, il est appelé par Dieu. Dieu va le voir et lui dit, « Moi, je veux que tu t'en ailles en Assyrie. » Et là, on parle de 800 kilomètres au nord-est, c'est l'équivalent d'Irak aujourd'hui à peu près. Et « Je veux que tu ailles là-bas et que tu ailles prêcher, tu ailles les avertir. » Parce que Dieu voulait les sauver, voulait qu'ils viennent à la repentance. Mais Jonas, sa réaction, c'est qu'il va le refuser. Il refuse carrément ce que Dieu lui demande, parce que Jonas les déteste. Après tout, les Assyriens étaient vraiment l'ennemi juré d'Israël. Ils les haïssaient, ils ne voulaient rien savoir. Et ce qu'on s'aperçoit par l'attitude de Jonas, tranquillement, ce que ça laissait trahir, c'est que ça démontrait que Jonas, dans le fond, avait un orgueil spirituel. Il les jugeait, il les considérait comme moins spirituels, moins bons, vraiment, qui ne méritaient pas du tout la grâce que Dieu s'apprêtait à leur offrir. Alors, son attitude montre que, en fond, Jonas ne comprenait pas la vraie nature du péché, puis la vraie nature de la grâce. Le livre ouvre comme ça. Il nous montre vraiment tout de suite le commandement de Dieu, cette mission que Dieu confie à Jonas et son refus. Alors, on va prendre la lecture ce matin et on va retourner au premier chapitre de Jonas. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin. Donc, Jonas, chapitre 1. Alors, prenez le temps de trouver c'est très court, très dur à trouver. On peut facilement passer tout de suite et le manquer. C'est une petite sortie là qui c'est pas une grosse affiche, ça passe très vite. Donc, Jonas, chapitre 1. On va juste demander à Dieu de nous bénir ensemble, si vous voulez bien. Eh bien, Seigneur notre Dieu, comme on l'a prié tantôt dans ce chant, on te demande que tu disposes notre cœur à entendre, à écouter, à obéir ta parole, à faire ta volonté. On veut se soumettre à ta volonté, Seigneur. On veut te plaire. Parce qu'on te doit tout. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour cette lumière sur notre sentier, cette direction claire pour nous montrer comment vivre notre vie, comment mener notre vie de façon à te glorifier. On te prie que ton Esprit Saint parle à nos cœurs ce matin et nous aide à mettre en pratique dans notre vie quotidienne ces principes que nous allons voir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Alors, vous êtes avec moi, Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, il trouva un bateau qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent, en effet, qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramenèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent, « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Le premier chapitre du livre de Jonas a trois aspects, trois parties, si on veut. Il y a d'abord, et ça commence sur les quelques premiers versets, la désobéissance de Jonas. C'est suivi par l'intervention de Dieu. Dieu qui intervient, qui fait une intervention. Ensuite, on a la réaction de Jonas. La semaine dernière, on s'est arrêté sur la désobéissance de Jonas. On a appris que la désobéissance de Dieu, c'est vraiment fuir Dieu. Et fuir Dieu, c'est la désobéissance. Désobéir à Dieu, c'est vraiment s'éloigner de lui. Au lieu de suivre la parole de Dieu, ce que Dieu demandait à Jonas, qu'est-ce que Jonas fait? Il s'en va prendre un billet, embarque dans un bateau, et s'en va pour un long voyage qui durait avec les escales et tout ça, et la distance près d'un an. Il s'en va très loin dans la direction opposée de la direction que le Seigneur lui avait demandé d'aller. Et comme on a expliqué la semaine dernière, dans la tradition juive, s'éloigner d'Israël, c'est décider de s'éloigner de Dieu. Alors, lui s'en va, il s'éloigne d'Israël et il s'éloigne de Dieu. Et c'est pour ça qu'on va revoir plus de trois fois cette expression, il s'éloignait de l'Éternel. Alors, que fait Dieu dans tout ça? Dieu le traque. Et cette histoire montre de façon concrète ce que la Bible enseigne sur le péché, sur la grâce. Parce que le péché, c'est ce qu'on apprend, le péché, c'est fuir Dieu. La grâce de son côté, c'est l'effort tenace, infatigable de Dieu à poursuivre et à intercepter le comportement destructeur du pécheur. Dieu nous aime trop pour nous laisser aller dans une attitude où on s'enligne vers la destruction. La grâce, c'est Dieu qui traque l'homme qui le fuit, car il est en train de s'autodétruire. Alors Dieu, dans sa grâce, poursuit le pécheur pour le sauver. Regardez le verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Dieu envoie un ouragan pour sauver Jonas. Dieu envoie un ouragan mortel pour sauver sa vie. Pourquoi Dieu envoie-t-il une tempête mortelle pour sauver sa vie? C'est que Jonas a reçu la mission d'aller prêcher en Syrie sur le péché et la grâce. En fait, c'est une grâce que Dieu leur offre, que les Assyriens puissent se tourner vers Dieu. Sinon, il aurait tout simplement décidé de les juger et les détruire. Mais non, il appelle un prophète, un homme de Dieu, qu'il aille faire un long voyage de 800 kilomètres et aller leur dire de se repentir. Et ça, c'est la grâce. Mais Jonas ne saisissait pas vraiment la nature du péché et la grâce. Il se voyait mieux que les Assyriens. Si Jonas avait bien compris le péché, que lui-même dépendait de Dieu, lui-même dépendait de la grâce de Dieu, qu'il était autant pécheur que les Assyriens, s'il avait bien compris son propre péché, il aurait été vers les Assyriens, leur présenter la parole de Dieu. Il aurait très bien compris que les Assyriens avait tellement besoin de la grâce de Dieu, Mais Jonas se voyait supérieur aux Assyriens. Et pourtant, nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Et ça, c'est l'essence du christianisme. Nous sommes acceptés dans la famille de Dieu et complètement acceptés de Dieu, non pas par ce que l'on peut faire, par toutes les bonnes choses que l'on peut faire à travers les années, mais on est accepté par Dieu et complètement accepté par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. À partir du moment où on fait de Jésus notre sauveur, qu'on se reconnaît pécheur, qu'on dit « on a besoin, j'ai besoin de toi, Jésus, pour mon salut, pour la vie éternelle, pour le pardon de mes fautes », à partir de ce moment-là, je suis accepté. Et ça relève pas, ça ne dépend pas de ce que je fais. Je suis accepté. Dieu nous sauve parce que la dette que nous avions envers lui a été payée par Jésus-Christ à la croix. Jonas ne saisissait pas l'immense dette qu'il avait envers Dieu en raison de son propre péché. Il se voyait vraiment supérieur aux Assyriens. Mais Jonas aussi avait besoin de la grâce de Dieu. Et c'est une leçon qu'il aura besoin d'apprendre. Jonas ne comprenait pas cette grâce. Il refuse d'aller chez les Assyriens. Et non pas parce qu'il a peur, mais parce qu'il les haïssait, il se sentait supérieur à eux, et il ne voulait pas les aider. Et ce sentiment de supériorité montre qu'il ne comprenait pas vraiment la vraie nature de la grâce et du péché. Jonas avait besoin de grandir. Et s'il était pour être un prédicateur puissant et prêt pour aller prêcher aux Assyriens et à d'autres, il avait besoin de mieux comprendre le péché et la grâce. Il avait besoin de saisir que lui aussi avait besoin de Dieu. Il avait besoin de comprendre que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Et c'est un principe important dans les Écritures. Tant qu'on ne voit pas qu'on n'est pas compétent pour gérer notre propre vie comme Dieu l'entend, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu pour sa gloire, tant qu'on ne réalise pas qu'on n'a pas la compétence pour bien mener notre vie pour la gloire de Dieu, tant aussi longtemps qu'on ne le comprend pas, on va mal gérer notre vie. Vous n'aurez pas la compétence de mener votre vie tant que vous ne réalisez pas que vous n'avez pas la compétence pour mener votre vie. Et Proverbes 28, 26 le dit, « Celui qui a confiance en sa propre sagesse, en son propre cœur, est stupide. Mais celui qui marche dans la sagesse de Dieu, parce que le livre des Proverbes, lorsque ça parle de la sagesse de Dieu, mais celui qui marche dans la sagesse de Dieu sera délivré. » Et pour aider Jonas à le comprendre, pour aider Jonas à grandir, Dieu fait une intervention. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu cette émission-là, c'est en anglais, je ne pense pas que ça s'est traduit, je ne sais pas. Intervention. C'est une émission, finalement, qui est très dure, parce que là, c'est des enfants, peut-être un fils ou une fille d'une famille, et il est pris dans la drogue, il est ou soit dans la boisson, puis il est en train de se détruire, il est en train de détruire sa vie, puis il est en train de détruire la vie de ceux autour de sa famille, dans toute sa famille. Puis il est en train de descendre, puis tomber, et si quelqu'un ne les arrête pas parce qu'il n'est pas en mesure de gérer sa vie, si quelqu'un ne l'arrête pas, il s'en va vers la destruction, vers la mort, il va se détruire, il s'auto-détruit en ce moment, il est sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Alors la famille fait une intervention, et qu'est-ce qu'elle fait? La famille va le mettre dans un coin, et toute la famille est réunie, et puis ils vont l'entourer d'amour pour le confronter et lui dire, écoute, tu n'es pas capable tu n'as pas la compétence en ce moment de gérer ta vie, tu es en train de te détruire, tu as besoin d'aide, et dans le fond, le message qu'ils essaient de leur transmettre, c'est que tu as besoin d'aide, reconnais-le. Et c'est ce que Dieu fait en ce moment avec Jonas. Il l'entoure de son amour et lui dit, jusqu'à ce que tu réalises que tu es hors de contrôle, Jonas. Tu n'es pas aussi fort que tu penses. Tu n'es pas aussi compétent que tu penses. Jusqu'à ce que tu le réalises, tu ne seras pas assez compétent. L'intervention de Dieu prend habituellement la forme d'une tempête. Parfois, la tempête est la façon pour Dieu de venir dans notre vie et nous montrer qu'on n'est pas au contrôle, qu'on a besoin d'aide, qu'on est faible et qu'on a désespérément besoin de lui et qu'on n'est pas aussi hot qu'on pense. Et Dieu se servira de certains événements pour nous pousser jusqu'à la frustration des fois. Il nous mène à bout pour nous rappeler qu'on est faible et qu'on a besoin de lui. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu sait comment rendre notre vie misérable. Est-ce que j'entends des amen ici? Oh, ouais, vous savez, hein, il y en a qui ont pris la leçon là, ici, ça paraît, là, ça sortait avec cœur. Dieu sait comment rendre notre vie misérable. Parce qu'il t'aime trop pour te laisser t'auto-détruire. Il va te traquer, te poursuivre, il part à la course vers toi comme il va faire avec Jonas. Jonas avait son idée, moi je m'en vais, je m'éloigne de Dieu, je veux rien savoir. Et il l'a fait à sa tête, il est parti. Maintenant, il a fait ce qu'il voulait. Est-ce qu'il était heureux? Hey, mon ami, ça a été épouvantable, c'était la tempête, c'était malheureux. Tout le monde était malheureux sur le bateau. Pourtant, il a fait exactement ce qu'il voulait. Il y a des gens qui pensent, ils disent, quand on fait ce qu'on veut, moi je veux faire ce que je veux, parce que là je vais être heureux, je fais ce que je veux. Et pourtant, dans le cas de Jonas, il m'a dit rien à faire, il était vraiment pas heureux dans le bateau. Personne était heureux sur le bateau. On s'entend? Et il a fait pourtant ce qu'il voulait. Parce que Dieu sait comment rendre notre vie misérable. Il le sait. Il te laisse pas tranquille. Il va aller te chercher parce qu'il t'aime trop. Et pourquoi Dieu envoie la tempête? Parce qu'on est en train de se détruire. Maintenant, Jonas ne savait pas que la tempête s'en venait. Pour lui, mon ami, le ciel était bleu. Pensez-vous que c'était pas des nonos, ces gars-là. C'était des gars qui étaient habitués dans le bateau. Jamais ils auraient pris le bateau pour aller faire un si gros voyage s'il faisait mauvais. Il faisait beau, c'était le ciel bleu. Et Jonas pensait que faire à sa tête, c'est le ciel bleu. Ça va être super. Lui, il n'a pas vu la tempête venir, pantoute. Mais là, Dieu envoie la tempête. Il change sa vie. Alors que ça semblait, ça s'annonçait bien, c'était le ciel bleu, c'était beau, tu fais ta tête, tu fais ta volonté, ça s'annonce tellement fun, yes! Ben non, ça n'a pas été du tout le cas, ça a été complètement changé, différent, parce que Dieu sait comment rendre notre vie misérable. Il nous aime trop pour nous laisser faire. Le Seigneur sait que c'est mieux même parfois de te laisser dans la tempête. Parce que des fois, comment on réagit devant la tempête? Des fois, on va dire, franchement, il me semble, ça fait long, là, c'est long. Avez-vous déjà eu ça? Moi, j'ai déjà passé par là. Où OK, là, tu comprends, OK, Seigneur, tu permets ça dans ma vie, puis ça, tu veux que je me rapproche de toi, puis ça. Mais j'ai appris ma leçon, Seigneur. J'ai compris, tu peux l'enlever, l'épreuve, là. C'est fini. C'est correct. Non, j'ai vraiment compris, je te le dis, là. S'il y a un examen, 10 sur 10, aucun problème. J'ai très bien compris ma leçon. Puis là, tu commences à dire, Dieu, c'est injuste, puis c'est bien trop, ça n'a pas d'allure, c'est trop pour toi, puis tu comprends pas, tu dis, non, ça n'a pas d'allure, puis tu commences à accuser Dieu. Et ça, c'est ta réaction, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais quoi? Dieu, parfois, nous laisse plus longtemps dans la tempête parce qu'il veut que la leçon passe de ta tête jusque-là, dans ton cœur, bien imprimé, puis ça va rester bien longtemps. Il nous connaît. Il le sait. Il arrive que Dieu envoie d'autres sortes de tempêtes, des fois. C'est beaucoup plus subtil. Parfois, il te donne tout ce que tu veux. Là, tu vas avoir du succès, tu vas avoir l'argent, ça roule, puis tout ça. Tu vas avoir ta nouvelle voiture, tu l'as, ça roule. Franchement, tout va bien. Et tranquillement, tu réalises, avec le temps, ben, tu t'aperçois finalement que tu as encore un vide dans ton cœur. Moi, j'ai un de mes amis qui a fait pas mal d'argent, il était en affaires, puis ça a roulé son affaire, puis c'est acheté, vous savez, le rêve des gars, peut-être des filles, je sais pas, vous me direz. S'acheter sa Mercedes. Alors, mon ami, c'est une affaire de 100 quelques mille piastres. Belle Mercedes. Puis, un mois après, il m'a dit, c'est-tu normal? Je regarde ma Mercedes, c'est du métal. Alors, lui, il pensait là, que ça serait incroyable. Là, il est arrivé. Il se promène en Mercedes. Bon, OK, il y en a d'autres qui diraient, ça prend une Audi. Bon, Mathieu dirait, non, regarde, une Audi. OK, ça marche indépendamment de la voiture, là, mais on se comprend. Là, quelque chose de luxueux, incroyable, luxueux. Là, quand il l'a eu, il est arrivé, il a eu du succès, il a eu de l'argent, puis il a eu sa Mercedes et tout ça. Un mois après, il la regardait, puis, OK, c'est beau, c'est super, c'est très beau, c'est une bonne voiture. Puis, tu sais, je veux dire, oui, j'accepterais ça, quelqu'un veut me donner une Mercedes, je la prendrais, là, je suis pas nono. Mais, non? OK. Mais, ça, je verrais ça, moi, un pasteur qui arrive en Mercedes. Ça ferait drôle, hein? C'est fort, hein? En tout cas. Mais un mois après, même, c'est encore une belle voiture. Mais lui, à quelque part dans son cœur, il a réalisé, ah, sais-tu, dans le fond, c'est pas ça, la vie. C'est pas ça, c'est pas juste ça. Tu sais, puis, il y avait comme un genre de vide qui était là. Puis, des fois, Dieu, la tempête prend cette forme-là de te donner ce que tu veux pour que tu apprennes cette leçon-là. Et là, le Seigneur nous chuchote à notre oreille. Il va nous dire, vois-tu que tu as encore besoin de moi? Vois-tu qu'il te manque encore quelque chose dans ta vie? Tu as été créé à l'image de Dieu, tu as besoin de moi, tu as été faite pour m'adorer, tu as été faite pour que je sois dans ta vie, je fasse partie de ta vie. Maintenant, comment on réagit face à la tempête? Quand ça arrive, quand Dieu intervient, comment on réagit quand on est dans la tempête? Parce qu'il convient de se rappeler que le problème, c'est pas la tempête, c'est notre réaction à la tempête. Regardez bien ceci. Le problème n'est pas la tempête, mais ma réaction à la tempête. En d'autres mots, qu'est-ce qui va me faire grandir ou chuter, tomber, devenir plus dur, méprisant, c'est ma réaction face à la tempête. Et des fois, il y a des gens qui ont de l'amertume dans leur cœur pendant très longtemps. Puis là, tu commences à leur parler, ils s'ouvrent leur cœur, puis ils sont très honnêtes, puis on dit, écoute, oui, j'ai de l'amertume dans mon cœur. Puis, ce qu'ils vont faire, ils vont pointer vers la personne qui leur a fait du mal. Et c'est vrai, c'est pas que c'est pas vrai. Il y a eu une tempête, il y a eu une tempête. Et ils vont dire, quelqu'un m'a fait du mal, c'est pour ça que j'ai l'amertume. Non, c'est pas pour ça que tu as l'amertume. Le mal qui t'a été fait décrit l'événement qui s'est produit. Mais la cause de l'amertume est le manque de pardon. C'est ça qui se cache derrière l'amertume. Parce que tu aurais pu réagir de deux manières face au mal qui t'a été fait. Donc, la réaction face à la tempête va déterminer si tu vas grandir ou si tu vas tomber et tu vas devenir plus amer et plus dur. C'est ta réaction qui va faire la différence. Et on a besoin d'apprendre ça ce matin, partir d'ici, dire, Seigneur, c'est ça. J'ai vraiment besoin de changer ma réaction maintenant lorsque tu fais une intervention dans ma vie, lorsque je me retrouve dans la tempête, parce que je veux grandir. La tempête tombe sur Jonas, c'est une intervention de Dieu, et c'est la façon pour Dieu de dire, vois-tu Jonas, tu as besoin de moi. Comment réagit Jonas? La réaction de Jonas nous montre que c'est dans la repentance que nous trouvons la bénédiction. C'est vraiment là. Et Jonas va vraiment changer du tout au tout. Il n'était pas un modèle au début des trois premiers versets, on va dire, mais là, tout va changer à partir des versets 10 jusqu'au 17, jusqu'à la fin du chapitre. Je vous dis, là, Jonas va changer et il devient vraiment un modèle pour nous. Il a vraiment une belle réaction. Tout d'abord, les marins se cassent la tête pour essayer de trouver qui est responsable de la tempête. Jonas se lève et c'est très clair ce qu'il dit. Les gars, c'est de ma faute. C'est moi, là. C'est de ma faute. Très honnête, très humble, il reconnaît, il dit, les gars, c'est de ma faute. Il dit, on n'essaiera pas, là, c'est pas de casser la tête, là. C'est pas compliqué. C'est de ma faute. Et ça commence là, la repentance. C'est relativement simple, la repentance. Ça commence lorsque tu reconnais que tu es pécheur. C'est de ma faute. Et il y aurait tellement de mariages qui iraient mieux. Êtes-vous d'accord avec moi? Ouais, je vois par où vous emmène. Vous êtes pas mal excités, là, ce qui s'en vient. Les gars, les filles, c'est vrai. Il y aurait des mariages, il y aurait pas mal mieux si, chérie, c'est de ma faute. Écoute, oui, c'est de ma faute. Suite. Pourquoi prendre trois jours, puis des tempêtes, puis des chicanes, pour finalement que tu arrives, puis tu te dis, c'est de ma faute. Alors, lui, il donne pas d'excuses, Jonas, à ce point-ci, il est dans la tempête, tout, il voit bien, c'est bien clair, puis c'est un livre ouvert, et c'est, les gars, c'est de ma faute. Je suis responsable. Il va aussi regarder ce qu'il dit au verset 12, il dit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi, là, qui attire sur vous cette grande tempête. C'est de ma faute. On remarque une chose bien importante ici. La tempête de Jonas, avez-vous remarqué que ça a mis tout le monde en danger? Avez-vous remarqué les dommages collatéraux? Jonas pêche, et bon, on a mis toute la gang dans le bateau, ils sont là, puis ils ont peur de mourir. Là. Ça touche tout le monde, et des fois, lorsqu'on pêche, ça touche bien du monde autour. Les conséquences de nos décisions et de nos choix et ce qu'on fait a des incidents, a un impact sur les gens autour de nous. Et c'est ce qui arrive ici. Non seulement que les gens dans le bateau ont peur de mourir, mais ça a mis en danger même les autres bateaux dans le coin qui subissaient cette tempête-là. Une autre personne a fait le mal, puis voilà que toi, tu paies le prix. On ne réalise pas des fois tout l'impact du péché. Et Jonas le sait en passant. Lui est très conscient de ça. Voici ce qu'il dit au verset 12. Il dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette tempête. » La tempête vous frappe à cause de moi. Il est bien conscient de ça. Est-ce que la tempête vise également les marins? Est-ce que les marins avaient aussi péché et Dieu en profite? Deux pour un. Puis tiens, on va régler ça tout de suite. Maintenant, ça pousse la question suivante. Si nous sommes dans la tempête, est-ce que c'est forcément et automatiquement parce que j'ai du péché dans ma vie? Si je tombe dans une épreuve aujourd'hui pour demain, est-ce que normalement, est-ce que c'est ça, c'est parce que j'ai péché? Combien de gens viennent me voir et me disent qu'ils sont dans un temps, là, ça va vraiment pas bien, puis tout de suite, ils l'associent à eux. Est-ce que j'ai du péché, etc.? Je pense que c'est un bon exercice d'arriver humblement devant Dieu. Seigneur, est-ce que tu péché dans ma vie? C'est correct de venir à Dieu. Mais s'il y a une fausse culpabilité, il faut arrêter là. Parfois, oui, c'est le cas. Lorsqu'il y a une tempête, c'est parce qu'on a péché. Et c'était le cas avec Jonas. Parfois, oui. Parfois, non. On prend l'exemple de Job, où Job, la tempête l'a frappé sa famille, tout ça, il a perdu sa famille. Le malheur est tombé sur lui, mais il était intègre, nous dit le Seigneur. On pense aussi à ce passage que Jésus va expliquer, va corriger. Il y avait un enseignement qui circulait à l'époque chez les pharisiens, vous savez, le judaïsme classique. On rentre dans cette période-là des rabbins, tout ça. Eux autres avaient créé toutes sortes de lois, toutes sortes de principes, tout ça, qui n'étaient même pas dans la Bible. C'était des dérivés. Finalement, tu avais des milliers de lois. C'était, oh mon ami, insupportable. C'est pour ça que Jésus va de temps en temps va dire, vous avez entendu dire que, mais moi je vous dis que. Parce que Jésus est constamment en train de corriger des faux enseignements qui circulaient dans le judaïsme qui avait été enseigné par des pharisiens. Et l'une d'elles, c'est ceci, dans Jean 9, qui dit ceci. Laissez-moi vous lire Jean 9, qui dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Maintenant, on comprend on comprend la question avec les parents. Est-ce que c'est les parents qui ont péché, puis lui a subi les conséquences de ça? Parce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans Exode 34, qu'il y a certainement cause à effet, il y a des conséquences. Nos enfants vont payer le prix, subissent des conséquences parfois des choix que les parents ont faits. Ça, on comprend ça, ça se voit de temps en temps. On pourrait comprendre cette question-là des disciples. Des fois, ça tombe de génération en génération. On peut comprendre. Mais c'est l'autre question qui est un peu étrange. Est-ce que c'est l'enfant, est-ce que c'est l'homme qui a péché pour qu'il naisse aveugle? Comment tu peux avoir péché si tu nais au monde? Tu n'es même pas né encore, puis tu tombes, tu nais, tu viens au monde, puis là, parce que tu as péché dans le ventre de ta mère, tu subis ce jugement-là que tu nais aveugle. Eh bien, ça remonte justement à cette fausse enseignement, ce faux enseignement qui circulait chez les pharisiens, que t'avais comme deux inclinations dans le ventre du bébé, dans le ventre de sa mère. Et ça, c'est très gros, c'est une grosse doctrine qui existe encore aujourd'hui chez les Juifs. C'est l'inclination du bien et l'inclination du mal. Il y a même deux noms pour ça que les Juifs donnent. Yetzer Hara et Yetzer Tov. L'inclination du mal et l'inclination du bien. Et là, ça se chamaille en dedans. Il y a un conflit dans le ventre de la mère. Il y a un conflit chez le bébé. La nature, le mauvais penchant, celui qui penche vers le mal, veut prendre le dessus. Il y a une bataille en dedans pour savoir qui va gagner l'enfant, en quelque sorte. C'est un combat entre cette mauvaise nature, la bonne nature. Et là, à un moment donné, le bébé, c'est le conflit qui gagne, c'est la mauvaise inclination qui gagne. Le bébé donne un coup de pied au ventre de sa mère, puis Dieu juge le bébé, il sort et il est aveugle. Donc, le bébé subit un jugement, un châtiment de Dieu parce que l'inclination du mal dans le ventre a eu le dessus. Pouvez-vous juste imaginer le jugement autour de ce bébé-là? Et c'est ça qui se promenait. Il y avait tellement de jugement dans les gens, parmi les gens à l'époque. Et Jésus, sans tout cet orgueil, ces jugements, vous savez, ces pharisiens qui se pensaient tellement meilleurs, et les gens ne comprenaient pas la vraie nature du péché. Ils se pensaient supérieurs aux autres. Et Jésus veut casser cette fausse pensée, cette illusion que l'on a, qu'on est meilleur que l'autre et tout ça, et puis on se juge, on se critique, on dit on est meilleur que les autres. Et Jésus va corriger ça. Voici ce qu'il répond au verset 3. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. » Là, il n'est pas question. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et les œuvres dont fait référence Jésus-Christ, c'est que les pharisiens, il s'est servi de cet enseignement qui circulait. Voici la pensée des pharisiens, des rabbins, c'est que compte tenu que c'est un jugement divin, il disait, seul le Messie pouvait guérir un aveugle né. Et ça circulait, ça. Si tu tombais aveugle dans ta vie et tu guérissais, ça ne relevait pas d'un miracle messianique en quelque sorte. Et là, mais si tu guéris quelqu'un quand il est né aveugle, compte tenu que c'est un jugement divin, là, seul le Messie pourrait faire ça. Et là, qu'est-ce que Jésus fait? Il va justement guérir cet aveugle né. Il fait un miracle. Donc oui, ça a révélé les œuvres de Dieu. Cette épreuve-là chez ce jeune homme a révélé l'œuvre de Dieu. Ça a été pour la gloire de Dieu. Donc, c'est le contraire du péché, c'est le contraire dans ce cas-ci, c'est pour élever la gloire de Dieu. Alors, parfois, oui, c'est nous qui sommes la cause de la tempête comme Jonas, mais parfois non, comme Job et comme cet enfant. Mais cela étant dit, Jésus avait besoin de donner un enseignement très important à cause de cet orgueil qui circulait, cet orgueil spirituel et de ce jugement qui circulait. Et il va le faire en donnant un autre passage ailleurs. Et Jésus veut corriger ça, et on le voit dans Luc 13. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Alors, probablement un jour de Pâques et tout ça. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens? Et parce qu'ils ont subi un tel sort? » Et Jésus va répondre, Jésus va corriger cette notion-là. Il dit non. Je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, en d'autres mots, si vous ne vous repentez pas de cet orgueil spirituel, si vous ne vous reconnaissez pas vraiment pécheur, que vous avez besoin aussi de la grâce de Dieu, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes, un autre exemple. Ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Parce que c'est ça que les gens disaient. Les gens associaient automatiquement, ah, tu as une épreuve, c'est parce que Dieu est en train de te juger. Tu dois avoir du péché dans ta vie. Regarde, je te dis, il y a du péché, puis les gens te jugeaient. Non, dit Jésus, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. En d'autres mots, nous sommes tous pécheurs. Tous pécheurs, et nous avons besoin de la grâce de Dieu. C'est le point que Jésus veut faire, alors que ces gens-là refusent le Messie, ne veulent pas venir à Jésus-Christ. Ils sont pécheurs, mais ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de lui. Les pharisiens enseignaient que si les malheurs tombaient sur toi, ils n'avaient pas besoin. Et c'est toi qui étais pécheur, mais eux autres se sentaient corrects. Alors Jésus est en train de leur dire, c'est une attitude arrogante, que de présupposer que si des personnes ont plus d'épreuves que nous, c'est qu'ils sont pires que nous. Et la conclusion de Jésus, c'est que personne ne reçoit vraiment ce qu'il mérite. C'est ça son point. Regardez ça, là, comment Dieu nous garde, comment Dieu nous bénit. Dieu nous a donné la vie. Il nous a créés et soutient notre vie à chaque seconde. On lui doit tout notre amour, notre parfaite allégeance, une loyauté sans borne et notre entière adoration. C'est ça qu'on doit à Dieu, à cause de tout ce qu'il nous donne. Mais regardez comment on le traite et comment on se traite les uns les autres. Oui, peut-être par moment ça va mieux, mais reconnaissons, c'est pas parfait. Quand on regarde notre quotidien, on prend pas toujours des décisions en fonction de la gloire de Dieu, mais très souvent on cherche notre propre bonheur puis notre affaire, puis très centré sur nous-mêmes. Nos décisions reposent par moments sur nous, sur ce qu'on veut. Et vraiment, là, on tasse Dieu dans l'équation. Si Dieu nous donnait vraiment ce qu'on mérite, si Dieu agissait avec nous selon la manière dont nous agissons avec lui et avec les autres, je peux vous garantir qu'il n'y aurait pas personne ici dans la salle. Pas vrai? Mais Dieu merci que Dieu n'agit pas comme ça. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il nous tend la main. Et c'est ce qu'il veut faire avec les Assyriens. Et c'est ce qu'il fait avec Jonas. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Maintenant, regardez Jonas, Job. Job le comprenait très bien. Job comprenait très bien cela. Il avait cette conviction bien ancrée dans son cœur. Lorsqu'il a tout perdu dans la tempête, lorsqu'il a été, son foyer a été frappé, il n'a même pas accusé Dieu d'être injuste. Quelle a été sa réaction? Regardez bien Job, la réaction de Job dans la tempête. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre, se prosterna. Et oui, il souffre. Absolument, tu perds quelqu'un de très cher, il souffre. Il dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je vais repartir. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Imaginez, il est en train d'adorer Dieu. Il est en train d'adorer Dieu, là. Il a tout perdu en train d'adorer Dieu. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Voilà où le Seigneur veut nous emmener, nous conduire. Voilà la maturité, la sagesse. Voilà la réaction à avoir devant la tempête et dans la tempête. C'est là que Dieu veut nous emmener. Il adore Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. La question n'est donc pas pourquoi Dieu permet-il tant de souffrances dans le monde? Ce n'est pas la bonne question à se poser. La question est celle-ci. À la lumière de la façon dont Dieu nous traite. Non, à la lumière de la façon dont on traite Dieu et comment on traite les autres. Pourquoi Dieu nous donne tant de beauté, tant de vie, tant de lumière et tant de bonnes choses? Elle est là la vraie question, en fond. Ça règle la question. Et jusqu'à ce qu'on comprenne ça, on va être déçu par le monde. On va constamment avoir des déceptions. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que lorsqu'on se trouve dans la tempête, fais-lui confiance. Approche-toi de lui. Et là, tu vas grandir à travers cette tempête. Ça revient à ce que Romains 8, 28 disait, n'est-ce pas? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres mots, selon la réaction que tu vas avoir dans la tempête, tu vas soit grandir ou tu vas t'endurcir. Et le Seigneur nous invite dans la tempête à agir comme Jonas, à agir comme Job et avoir une belle réaction. Et là, on va grandir. Le grand Jonathan Edwards, qui est un grand prédicateur, est décédé un jour dans la cinquantaine, assez jeune. Sa femme, Sarah Edwards, a immédiatement écrit à sa fille. Imaginez, elle venait de perdre son mari dans la cinquantaine. Elle vient de perdre son mari. Elle écrit à sa fille, voici ce qu'elle dit. Elle dit, « Que dirais-je, mon enfant? Le Dieu saint et bon nous a couverts d'un lourd nuage sombre. Oh, que l'on embrasse la lourde barre qu'il place sur notre dos et qu'on ne se plaigne pas. Le Seigneur a agi. Dieu m'a aidé à adorer sa bonté, de m'avoir laissé ton père si longtemps. Mon Dieu vit et il a mon cœur. » Où a-t-elle trouvé une telle force? Comment trouver une force de caractère si positive? Où a-t-elle trouvé une telle gentillesse, une telle sagesse, une telle profondeur, une telle douceur? Elle savait qui elle était. Elle savait qu'elle était une créature. Elle n'était pas le créateur. Elle comprenait son identité. Elle avait une profonde humilité. Sarah était forte, solide dans la tempête. Elle était confiante que Dieu avait un plan pour elle. Elle ne comprenait pas, mais elle savait au fond d'elle que Dieu a ses raisons. Pourquoi il permet qu'on est dans la tempête? Il sait. Alors elle dit, « Mon Dieu vit et il a mon cœur. » Voyez comment elle reste collée à lui. Par sa repentance et son humilité, elle peut avoir cette douceur, cette grâce. Elle a un esprit doux, gracieux, sage, et c'est pas superficiel, c'est profond. Elle n'a pas d'amertume. Peut-on gérer les tempêtes de notre vie de cette façon-là? C'est là que le Seigneur veut nous emmener si on veut grandir. C'est là qu'on a besoin d'être. Voilà ce que produit la repentance. De reconnaître notre péché, Et c'est là qu'on va voir la grâce de Dieu. Jonas dit, c'est de ma faute. Et la repentance est vraiment simple quand on y pense. Qu'est-ce qu'il fait Jonas? Il lève les yeux vers Dieu. Il commence à regarder à Dieu, commence à parler de Dieu. Et il cesse de penser à la tempête, il commence à regarder à Dieu. Verset 9 dit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il commence à penser à la grandeur de Dieu. Il est en train de reconnaître que même s'il allait au bout du monde, dans le fond, il ne pourrait jamais fuir Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et tout d'un coup, tout autour, perdait son importance lorsqu'il a commencé à redonner plus d'importance à Dieu, lorsqu'il a commencé à mettre le Seigneur en premier. Si la tempête arrive, qu'est-ce qu'on va faire? La tempête peut causer le naufrage pour certains, mais elle peut pousser d'autres à avancer, à grandir, à s'améliorer, à grandir en sagesse et en profondeur. C'est ceux qui se repentent, ceux qui regardent au Seigneur, c'est eux autres qui vont connaître la vraie liberté. Avez-vous remarqué l'attitude de Jonas? Il dit, prenez-moi. Avez-vous remarqué comment un peu il baisse les bras et il dit, prenez-moi. C'est ça la repentance, c'est de reconnaître. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ce que Jonas ne savait pas, c'est que sous les vagues se trouvait l'amour de Dieu. Sous les vagues se trouvait la provision que Dieu avait déjà préparée d'avance pour lui. Ce gros poisson qui attendait juste l'ordre de Dieu pour venir le ramasser et le prendre. La grâce se trouvait sous les vagues. Dieu avait tout organisé. De sorte qu'en s'abandonnant dans les bras de Dieu, en s'humiliant, il allait en fait trouver la vie. C'est sous la mer que Jonas trouve la provision de Dieu. Et chaque fois que tu obéis à Dieu, même si à première vue, ça semble pas mener à nulle part, tu vas découvrir que sous les vagues se trouve la grâce et la provision de Dieu. Et c'est comme ça dans les Écritures. On le dit souvent, je le répète, un principe qui va revenir dans les Écritures, c'est que le moyen de s'élever, c'est vraiment de s'abaisser. Le moyen de vivre, c'est mourir à soi-même. Le moyen de se trouver, c'est en cessant d'essayer de se trouver et de commencer à chercher le Seigneur. La façon de régner, c'est de se soumettre. Le chemin de la liberté est de se donner complètement au Seigneur. Jonas s'est complètement jeté dans la justice de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la grâce de Dieu. Et c'est ce que dit Proverbe 28. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Si tu te remets entièrement entre les mains de Dieu, à sa volonté, et tu dis, Seigneur, je me fous du prix, je me fous des conséquences comme Jonas. Pour lui, il s'en allait là. Je me donne. Il s'est donné à la justice de Dieu. Je me fous des conséquences, mais je te veux, je me donne à toi. C'est là que tu vas trouver vraiment la joie, tu vas trouver la bénédiction et le bonheur que tu peux même pas imaginer. Et vous savez pourquoi? Parce que sans le savoir, Jonas ici marchait dans les pas de Jésus-Christ. Lui, il ne savait pas du tout. Mais il devient le substitut qui va sauver, en se jetant à la mer, il devient le substitut qui va sauver les marins qui sont sur le bateau. Et c'est exactement l'image que Jésus va répéter, mais lui est allé jusqu'à la mort dans le Nouveau Testament. Jésus qui n'a pas mérité de se noyer, mais il est l'ultime substitut. Il a été jeté dans la colère de Dieu afin de payer notre dette, afin qu'on puisse avoir le soleil de la faveur de Dieu sur nos vies, tout comme les marins. Le soleil est revenu, la tempête a cessé. Le soleil, c'est cette faveur de Dieu. Jésus a pris l'ultime tempête afin que tu te retrouves sous le soleil de la faveur de Dieu. Alors, rappelons-nous, bien-aimés, Dieu envoie parfois une tempête dans notre vie, comme une intervention divine pour nous montrer qu'on a besoin de lui. On peut répondre de deux façons. Mais la bonne façon, c'est de s'approcher de lui, de poser nos regards sur lui, car Jésus a pris ta place, afin que le soleil des faveurs de Dieu brille sur toi. Amen. Seigneur notre Dieu, ô combien nous voulons te remercier, parce que tu ne nous as pas donné ce qu'on mérite. Nous te devons tout, Seigneur. Tu as été bon, tu as été généreux, gracieux, plein de compassion et de miséricorde envers chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons, cette semaine, nous voulons te remettre nos vies entre tes mains. Nous voulons nous jeter dans tes bras, nous abandonner à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu es bon et que tu prendras soin de nous. Et il est possible que certaines personnes ici cette semaine se trouvent dans la tempête, pour quelconque raison. On te prie, Seigneur, que tu leur donnes, tu leur accordes cette grâce d'avoir cette réaction de Jonas, de se jeter dans tes bras, de se coller à toi, Seigneur. Parce que c'est la meilleure place où se trouver, dans tes bras. Il y a peut-être des gens ici dans l'Assemblée ce matin qui, comme Jonas, se sont éloignés. Sont éloignés de toi. On te prie, peut-être que leur cœur s'est éloigné de toi, même s'ils sont ici dans cette assemblée, peut-être que leur cœur est loin de toi, et on te prie que ce matin, ils puissent le reconnaître, comme Jonas, le reconnaître, ouvrir leur cœur à toi, se jeter dans tes bras, se coller à toi, parce que c'est là que se trouve le bonheur, la joie, la bénédiction, c'est dans la repentance. Seigneur, que personne ne quitte cette assemblée ce matin sans s'abandonner à toi, parce que c'est là qu'est le chemin, c'est là qu'est la bénédiction. Et merci pour Jésus, merci pour la croix, merci que Jésus s'est jeté dans la mort. Il est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous, pour payer cette dette que l'on avait, afin que maintenant le soleil puisse briller. Le soleil de ta faveur puisse briller sur nous. Oh, merci Seigneur pour l'Évangile. Merci pour Jésus. Sois glorifié. Au nom de Jésus.